Chapitre 3, le messager, la promesse. Le matin même du 2 avril, une heure peut-être avant que Mirabeau rendît le dernier soupir, un officier supérieur de la marine, revêtu de son grand uniforme de capitaine de vaisseau et venant de la rue Saint-Honoré, s'acheminait vers les Tuileries par la rue Saint-Louis et la rue de l'Échelle. À la hauteur de la cour des écuries, il laissa cette cour à droite, enjamba les chaînes qui le séparaient de la cour intérieure, rendit son salut aux factionnaires qui lui portaient les armes, et se trouva dans la cour des Suisses. Arrivé là, il prit, comme un homme à qui le chemin est familier, un petit escalier de service qui, par un long corridor tournant, communiquait au cabinet du roi. En l'apercevant, le valet de chambre jeta un cri de surprise, presque de joie, mais lui, mettant un doigt sur sa bouche, « Monsieur Hu, dit-il, le roi peut-il me recevoir en ce moment ?»« Le roi est avec monsieur le général Lafayette, auquel il donne ses ordres pour la journée, » répondit le valet de chambre, « mais dès que le général sera sorti, vous m'annoncerez, » dit l'officier. « Oh, c'est inutile sans doute, Sa Majesté vous attend, car hier au soir elle a donné l'ordre que vous fussiez introduit aussitôt votre arrivée. » En ce moment, on entendit retentir la sonnette dans le cabinet du roi. « Eh, tenez, dit le valet de chambre, voilà le roi qui sonne probablement pour s'informer de vous. » « Alors entrez, monsieur Hu, et ne perdons pas de temps, si, en effet, le roi est libre de me recevoir. » Le valet de chambre ouvrit la porte, et presque aussitôt, preuve que le roi était seul, il annonça « Monsieur le comte de Charny !»« Oh, qu'il entre !» dit le roi, « depuis hier je l'attends !» Charny s'avança vivement, et avec un respectueux empressement, s'approchant du roi, « Sire, dit-il, je suis en retard de quelques heures à ce qu'il paraît, mais j'espère que, quand j'aurai dit à Sa Majesté les causes de ce retard, elle me pardonnera. Ah, venez, venez, monsieur de Charny, je vous attendais avec impatience, c'est vrai, mais d'avance, je suis de votre avis, une cause importante a pu seule faire votre voyage moins rapide qu'il n'aurait dû l'être. Vous voici, soyez le bienvenu. » Et il tendit au comte une main que celui-ci baisa avec respect. « Sire, continua Charny, qui voyait l'impatience du roi, j'ai reçu votre ordre avant-hier, dans la nuit, et je suis parti hier matin à 3 heures de Montmédy. Comment êtes-vous venu ? En voiture de poste. Ah, cela m'explique ces quelques heures de retard, dit le roi en souriant. « Sire, dit Charny, j'eusse pu venir à franc étrier, c'est vrai, et de cette façon j'eusse été ici de 10 à 11 heures du soir, et même plus tôt, en prenant la route directe, mais j'ai voulu me rendre compte des chances bonnes ou mauvaises de la route que votre majesté a choisie. J'ai voulu connaître les postes bien montés et les postes mal servis. J'ai voulu surtout savoir précisément combien de temps, à la minute, à la seconde, on mettait pour aller de Montmédy à Paris, et par conséquent, de Paris à Montmédy. J'ai tout noté, et suis en mesure maintenant de répondre sur tout. « Ah, bravo, monsieur de Charny, dit le roi, vous êtes un admirable serviteur. Seulement, laissez-moi commencer par vous dire où nous en sommes ici. Vous me direz ensuite où vous en êtes là-bas. » « Oh, sire, dit Charny, si j'en juge par ce qui m'est revenu, les choses vont fort mal. À tel point que je suis prisonnier aux Tuileries, mon cher comte. Je le disais tout à l'heure à ce cher monsieur de Lafayette, mon geôlier, j'aimerais mieux être roi de Metz que roi de France, mais heureusement vous voici. Sa Majesté me faisait l'honneur de me dire qu'elle allait me mettre au courant de la situation. » « Oui, c'est vrai, en deux mots, vous avez appris la fuite de mes tantes, mais comme tout le monde, sire, mais sans aucun détail. Oh, mon Dieu, c'est bien simple. Vous savez que l'Assemblée ne nous permet plus que des prêtres assermentés. Eh bien, les pauvres femmes se sont effrayées à l'approche de Pâques. Elles ont cru qu'il y avait risque à leur âme de se confesser à un prêtre constitutionnel, et, sur mon avis, je dois le dire, elles sont parties pour Rome. » Nulle loi ne mettait obstacle à ce voyage, et l'on ne devait pas craindre que les deux pauvres vieilles femmes fortifiassent beaucoup le parti des émigrés. C'est Narbonne qu'elles avaient chargée de ce départ, mais je ne sais comment il s'y est pris, toute la mèche a été éventée, et une visite dans le genre de celle qui nous est arrivée à Versailles les 5 et 6 octobre leur est arrivée, à elles, à Bellevue, le soir même de leur départ. Heureusement, elles sortaient par une porte, tandis que toute cette canaille leur arrivait par l'autre. Comprenez-vous, pas une voiture prête. 3 devaient attendre tout attelés sur les remises. Il leur a fallu aller jusqu'à Meudon à pied. Là, enfin, elles ont trouvé les voitures et l'on est parti. 3 heures après, rumeur immense dans tout Paris. Ceux qui étaient venus pour empêcher cette fuite avaient trouvé le nid tout chaud, mais vide. Le lendemain, hurlement de toute la presse, maracris qu'elles emportent des millions, des moulins qu'elles enlèvent le dauphin. Rien de tout cela n'est vrai. Les pauvres femmes avaient 300 000 ou 400 000 francs dans leur bourse et étaient bien assez embarrassées d'elles-mêmes sans se charger d'un enfant qui ne pouvait que les faire reconnaître. Et la preuve, c'est qu'elle fut reconnue sans lui, d'abord à Moret, qui les laissa passer, puis à Arnay le duc, qui les arrêta. Il m'a fallu écrire à l'Assemblée pour qu'elles continuassent leur chemin, et malgré la lettre, l'Assemblée a discuté toute la journée. Enfin, elles ont été autorisées à poursuivre leur voyage, mais à condition que le comité présenterait une loi sur l'émigration. Oui, dit Charny, mais il me semblait que, sur un magnifique discours de monsieur de Mirabeau, l'Assemblée avait rejeté le projet de loi du comité. Sans doute, elle l'a rejeté, mais à côté de ce petit triomphe m'attendait une grande humiliation. Quand on a vu le tapage que faisait le départ des pauvres filles, quelques amis dévoués, il m'en restait plus que je ne croyais, mon cher comte. Quelques amis dévoués, une centaine de gentilshommes s'étaient précipités vers les Tuileries et étaient venus m'offrir leur vie. Aussitôt, le bruit se répand qu'une conspiration se dénoue et qu'on veut m'enlever. Lafayette, qu'on avait fait courir au faubourg Saint-Antoine sous le prétexte qu'on relevait la Bastille, furieux d'avoir été pris pour dupe, revient. En avant, arrête nos pauvres amis, les désarme. On trouve sur les uns des pistolets, sur les autres des couteaux. Chacun avait pris ce qu'il avait trouvé à la portée de sa main. Bon, la journée sera inscrite dans l'histoire sous un nouveau nom. Elle s'appellera la journée des chevaliers du poignard. Oh, sire, sire, quel temps terrible que ceux que nous vivons, dit Charny en secouant la tête. Attendez donc, tous les ans, nous allons à Saint-Cloud, cette chose convenue, arrêtée. Avant-hier, nous commandons les voitures, nous descendons, nous trouvons 1500 personnes autour de ces voitures. Nous montons, impossible d'avancer. Le peuple saute à la bride des chevaux, déclare que je veux fuir, mais que je ne fuirai pas. Après une heure de tentative inutile, il fallut rentrer. La reine pleurait de colère. Mais le général Lafayette n'était-il donc pas là pour faire respecter votre majesté ? Lafayette, savez-vous ce qu'il faisait ? Il faisait sonner le tocsin à Saint-Roch. Il courait à l'hôtel de ville demander le drapeau rouge pour déclarer la patrie en danger. La patrie en danger parce que le roi et la reine vont à Saint-Cloud. Savez-vous qui lui a refusé le drapeau rouge ? Qui le lui a arraché des mains, car il le tenait déjà ? Danton. Aussi prétend-il que Danton m'est vendu, que Danton a reçu 100 000 francs de moi. Voilà où nous en sommes, mon cher comte, sans compter Mirabeau qui se meurt et qui est peut-être mort même à l'heure qu'il est. Eh bien alors, raison de plus pour se hâter, sire. Ah, c'est ce que nous allons faire. Voyons, qu'avez-vous décidé là-bas avec Bouillet ? Le voilà fort, j'espère. L'affaire de Nancy a été une occasion pour moi d'augmenter son commandement, de mettre de nouvelles troupes sous ses ordres. Oui, sire, mais par malheur, les arrangements du ministre de la guerre contrecarrent les nôtres. Il vient de lui retirer le régiment de Saxe-Hussard et lui refuse les régiments suisses. C'est à grand-peine qu'il a conservé, dans la forteresse de Montmédy, le régiment de Bouillon-Infanterie. Alors il doute donc maintenant, Non, sire, ce sont quelques chances de moins, mais qu'importe, dans de pareilles entreprises, il faut bien faire la part du feu ou du hasard, et nous avons toujours, si l'entreprise est bien conduite, 90 chances sur 100. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, revenons à nous. Sire, votre majesté est toujours bien décidée à suivre la route de Châlons, de Sainte-Menehould, de Clermont et de Stenay, quoique cette route ait 20 lieues au moins de plus que les autres et qu'il n'y ait pas de poste à Varennes. J'ai déjà dit à monsieur de Bouillé les motifs qui me faisaient préférer ce chemin. Oui, sire, et il nous a transmis à ce sujet les ordres de votre majesté. C'est même d'après ces ordres que toute la route a été relevée par moi, buisson à buisson, pierre à pierre. Le travail doit être entre les mains de votre majesté. C'est un modèle de clarté, mon cher comte. Je connais maintenant la route comme si je l'avais faite moi-même. Eh bien, sire, voici les renseignements que mon dernier voyage a ajoutés aux autres. Parlez, monsieur de Charny, je vous écoute, et pour plus de clarté, voici la carte dressée par vous-même. Et en disant ces mots, le roi tira d'un carton une carte qu'il déploya sur la table. Cette carte était non tracée, mais dessinée à la main, comme l'avait fait Charny. Pas un arbre, pas une pierre n'y manquait. C'était l'œuvre de plus de 8 mois de travail. Charny et le roi se penchèrent sur cette carte. « Sire, dit Charny, le véritable danger commencera pour votre majesté à Sainte-Menehould et cessera à Stenay. C'est sur ces 18 lieues qu'il faut répartir nos détachements. Ne pourrait-on les rapprocher davantage de Paris, monsieur de Charny, les faire venir jusqu'à Châlons, par exemple ?»« Sire, dit Charny, c'est difficile. » Châlons est une ville trop forte pour que 40, 50, 100 hommes même apportent quelque chose d'efficace au salut de votre majesté, si ce salut était menacé. Monsieur de Bouillé, d'ailleurs, ne répond de rien qu'à partir de Sainte-Menehould. Tout ce qu'il veut faire, et cela, m'a-t-il dit encore, de discuter avec votre majesté, c'est de placer son premier détachement à Pont de Sommevel. Vous voyez, sire, ici, c'est-à-dire à la première poste après Châlons. Et Charny montrait du doigt sur la carte l'endroit dont il était question. Soit, dit le roi, en 10 ou 12 heures, on peut être à Châlons. En combien d'heures avez-vous fait vos 90 lieues, vous ? Sire, en 36 heures, mais avec une voiture légère, où vous étiez seul avec un domestique. Sire, j'ai perdu 3 heures en route à examiner à quel endroit de Varennes on devait placer le relais, et si c'était en deçà de la ville, du côté de Sainte-Menehould, ou au-delà, du côté de Dun. Cela revient donc à peu près au même. Ces 3 heures perdues compenseront le poids de la voiture. Mon avis est donc que le roi peut aller de Paris à Montmédy en 35 ou 36 heures. Et qu'avez-vous décidé pour le relais de Varennes? C'est le point important. Il faut que nous soyons certains de n'y pas manquer de chevaux. Oui, sire, mon avis est que le relais doit être placé au-delà de la ville, à côté de Dun. Sur quoi appuyez-vous cet avis? Sur la situation même de la ville, sire. Expliquez-moi cette situation, comte. Sire, la chose est facile. Je suis passé 5 ou 6 fois à Varennes depuis mon départ de Paris, et hier j'y suis resté de 12h à 15h. Varennes est une petite ville de 1600 habitants à peu près, formée de 2 quartiers bien distincts qu'on appelle la ville haute et la ville basse, séparés par la rivière Der et communiquant par un pont jeté sur cette rivière. Si Sa Majesté veut bien me suivre sur la carte, là, sire, près de la forêt d'Argonne, sur la lisière, elle verra... Oh, j'y suis, dit le roi, la route fait un coude énorme dans la forêt pour aller à Clermont. C'est cela, sire. Mais tout cela ne me dit point pourquoi vous placez le relais au-delà de la ville au lieu de le placer en deçà. Attendez, sire, le pont qui conduit d'un quartier à l'autre est dominé par une haute tour. Cette tour, ancienne tour de péage, pose sur une voûte sombre, obscure, étroite. Là, le moindre obstacle peut empêcher le passage. Donc, mieux vaut, puisqu'il y a là un risque à courir, le courir avec des chevaux et des postillons lancés à fond de train et venant de Clermont, que de relayer à 500 pas en deçà du pont. qui, si le roi était par hasard reconnu au relais, pourrait être gardé et défendu sur un simple signal, par 3 ou 4 hommes. « C'est juste, dit le roi. D'ailleurs, en cas d'hésitation, vous serez là, comte. Ce sera à la fois un devoir et un honneur pour moi, si toutefois le roi m'en juge digne. » Le roi tendit de nouveau la main à Charny. « Ainsi, dit le roi, monsieur de Bouillé a déjà marqué les étapes et choisi les hommes qu'il échelonnera sur ma route. Sauf approbation de votre majesté, oui, sire. Vous a-t-il remis quelques notes à ce sujet ?» Charny prit dans sa poche un papier plié et le présenta au roi en s'inclinant. Le roi le déplia et lut. « L'avis du marquis de Bouillé est que les détachements ne doivent pas aller au-delà de Sainte-Menehould. Si cependant le roi exigeait qu'ils vinssent jusqu'au pont de Sommevel, voici comment je propose à sa majesté de répartir les forces destinées à lui servir d'escorte. » À Pont de Sommevel, 40 hussards du régiment de Lauzun, commandé par monsieur de Choiseul, ayant sous ses ordres le sous-lieutenant Boudet. À Sainte-Menehould, 30 hussards du régiment royal, commandé par monsieur d'Andouin, capitaine. À Clermont, 100 dragons du régiment de monsieur et 40 du régiment royal, commandé par le comte Charles de Damas. 4 à Varennes, 60 hussards du régiment de Lauzun, commandé par messieurs de Roric de Bouillé, fils et de Régecourt. 5 à Dun, 100 hussards du régiment de Lauzun, commandé par messieurs Delon, capitaine. 6 à Mouzet et 50 cavaliers de Royal Allemand, commandé par messieurs Günzer, capitaine. 7 enfin à Stenay, le régiment de Royal Allemand, commandé par son lieutenant-colonel, monsieur le baron de Mandel. « Cela me paraît bien ainsi, dit le roi après avoir lu, mais si ces détachements sont obligés de stationner 1, 2, 3 jours dans ces villes ou dans ces villages, quel prétexte donnera-t-on ? Sire, le prétexte est tout trouvé, ils sont censés attendre le convoi d'argent envoyé par le ministère à l'armée du Nord. « Allons, dit le roi avec une satisfaction visible, tout est prévu. » Charny s'inclina. « Et à propos de convoi d'argent, dit le roi, savez-vous si monsieur de Bouillé a reçu le million que je lui ai envoyé ?»« Oui, sire, seulement votre majesté sait que ce million était en assignat qui perd de 20%. A-t-il pu les escompter à ce taux, du moins ?»« Sire, d'abord, un fidèle sujet de votre majesté a été assez heureux de pouvoir à lui seul en prendre pour 100 000 écus sans escompte, bien entendu. » Le roi regarda Charny. « Et le reste, comte ?» demanda-t-il. « Le reste, répondit le comte de Charny, a été escompté par monsieur de Bouillé fils chez le banquier de son père, monsieur Perregaux, qui lui en a payé le montant en change sur messieurs Bettmann de Francfort, lesquels ont accepté les lettres de change. Au moment venu, l'argent ne manquera donc pas. « Merci, monsieur le comte, dit Louis XVI. » Maintenant, vous avez à me faire connaître le nom de ce fidèle serviteur qui a compromis sa fortune, peut-être, pour donner ses 100 000 écus à monsieur de Bouillé. Sire, ce fidèle serviteur de votre majesté est fort riche et, par conséquent, n'a eu aucun mérite à faire ce qu'il a fait. N'importe, monsieur, le roi désire savoir son nom. Sire, répondit Charny en s'inclinant, la seule condition qu'il ait mise au prétendu service qu'il rendait à votre majesté, ça a été de garder l'anonyme. Et cependant, dit le roi, vous le connaissez, vous ? Je le connais, sire. Monsieur de Charny, dit alors le roi, avec cette dignité pleine d'âme qu'il avait dans certains moments, voici une bague qui m'est bien précieuse, et il tira un simple anneau d'or de son doigt. Je l'ai prise à la main de mon père expiré en baisant cette main glacée par la mort. Sa valeur est donc celle que j'y attache. Elle n'en a pas d'autre, mais pour un cœur qui saura me comprendre, cette bague deviendra plus précieuse que le plus précieux diamant. Redites à ce fidèle serviteur ce que je viens de vous dire, monsieur de Charny, et donnez-lui cette bague de ma part. De larmes s'échappèrent aux yeux de Charny, sa poitrine se gonfla, et haletant, il mit un genou en terre pour recevoir la bague des mains du roi. En ce moment, la porte s'ouvrit. Le roi se retourna vivement, car cette porte s'ouvrant ainsi était une telle infraction aux règles de l'étiquette qu'elle constituait une grande insulte si elle n'était excusée par une grande nécessité. C'était la reine. La reine pâle et tenant un papier à la main. Mais à la vue du comte à genoux, baisant la bague du roi et la passant à son doigt, elle laissa échapper le papier en poussant un cri d'étonnement. Charny se releva et salua respectueusement la reine qui balbutiait entre ses dents « Monsieur de Charny, ici, chez le roi, aux Tuileries ?» et qui tout bas ajoutait « Et je ne le savais pas. » Il y avait une telle douleur dans les yeux de la pauvre femme que Charny, qui n'avait point entendu la fin de la phrase mais qui l'avait devinée, fit deux pas vers elle. « J'arrive à l'instant même, dit-il, et j'allais demander au roi la permission de vous présenter mes hommages. » Le sang reparut sur les joues de la reine. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas entendu la voix de Charny, et dans cette voix la douce intonation qu'il venait de donner à ses paroles. Elle tendit alors les deux mains comme pour aller à lui, mais presque aussitôt elle en ramena une sur son cœur qui sans doute battait trop violemment. Charny vit tout, devina tout, quoique ces sensations, qu'il nous faut 10 lignes pour transcrire et pour expliquer, se fussent produites pendant le temps qu'avait mis le roi à aller ramasser le papier qui était échappé des mains de la reine, et que le courant d'air causé par l'ouverture simultanée des fenêtres et de la porte avait fait voler jusqu'au fond du cabinet. Le roi lut ce qui était écrit sur le papier, mais sans y rien comprendre. « Que veulent dire ces 3 mots, fuir, 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 et cette moitié de signature ?» demanda le roi. « Sire, répondit la reine, ils veulent dire que monsieur de Mirabeau est mort il y a 10 minutes et que voilà le conseil qu'il nous donne en mourant. »« Madame, dit le roi, le conseil sera suivi, car il est bon, et le moment est venu cette fois de le mettre à exécution. » Puis, se tournant vers Charny, « Comte, poursuivit-il, vous pouvez suivre la reine chez elle et tout lui dire. » La reine se leva, regarda tour à tour le roi et Charny, puis, s'adressant à ce dernier, « Venez, monsieur le comte, dit-elle. » Et elle sortit précipitamment, car il lui eût été impossible, si elle fût restée 1 minute de plus, de contenir tous les sentiments opposés que renfermait son cœur. Charny s'inclina une dernière fois devant le roi et suivit Marie-Antoinette. La reine rentra chez elle et se laissa tomber sur un canapé en faisant signe à Charny de pousser la porte derrière lui. Par bonheur, le boudoir dans lequel elle entrait était solitaire, Gilbert ayant demandé à parler sans témoin à la reine afin de lui dire ce qui venait de se passer et de lui remettre la dernière recommandation de Mirabeau. À peine assise, son cœur trop plein déborda et elle éclata en sanglots. Ces sanglots étaient si énergiques et si vrais qu'ils allèrent chercher jusqu'au fond du cœur de Charny les restes de son amour. Nous disons les restes de son amour car lorsqu'une passion semblable à celle que nous avons vue naître et grandir a brûlé dans le cœur d'un homme, à moins d'un de ces chocs terribles qui font succéder la haine à l'amour, elle ne s'y éteint jamais complètement. Charny était dans cette position étrange que ceux-là qui se sont trouvés en position pareille peuvent seuls apprécier. Il avait à la fois en lui un ancien et un nouvel amour. Il aimait déjà André de toute la flamme de son cœur, il aimait encore la reine de toute la pitié de son âme. À chaque déchirement de ce pauvre amour, déchirement causé par l'égoïsme, c'est-à-dire par l'excès de cet amour, il l'avait, pour ainsi dire, senti saigner dans le cœur de la femme. Et à chaque fois, tout en comprenant cet égoïsme, comme tous ceux pour lesquels un amour passé devient un fardeau, il n'avait pas eu la force de l'excuser. Et cependant, toutes les fois que cette douleur si vraie éclatait devant lui, sans récrimination et sans reproche, il mesurait la profondeur de cet amour, il se rappelait combien de préjugés humains, combien de devoirs sociaux cette femme avait méprisé pour lui, et penché sur cet abîme, il ne pouvait s'empêcher d'y laisser tomber à son tour une larme de regret et une parole de consolation. Mais à travers les sanglots, le reproche perçait-il? Mais à travers les pleurs, les récriminations se faisaient-elles jour? À l'instant même, il se rappelait les exigences de cet amour, cette volonté absolue, ce despotisme royal qui était sans cesse mêlé aux expressions de la tendresse, aux preuves de la passion. Il se roidissait contre les exigences, s'armait contre le despotisme, entrait en lutte contre cette volonté, leur comparait cette douce et inaltérable figure d'André, et se prenait à préférer cette statue toute de glace qu'il la croyait, à cette image de la passion, toujours prête à lancer par les yeux les éclairs de son amour, de sa jalousie ou de son orgueil. Cette fois, la reine pleurait sans rien dire. Il y avait plus de 8 mois qu'elle n'avait vu Charny. Fidèle à la promesse qu'il avait faite au roi, le comte, pendant ce temps, ne s'était révélé à personne. La reine était donc restée ignorante de cette existence si intimement liée à la sienne que, pendant 2 ou 3 ans, elle avait cru qu'on ne pouvait séparer l'une de l'autre qu'en les brisant toutes deux. Et cependant, on l'a vu, Charny s'était séparé d'elle sans lui dire où il allait. Seulement, c'était sa seule consolation, elle le savait employée au service du roi, de sorte qu'elle se disait « En travaillant pour le roi, il travaille pour moi aussi, donc il est forcé de penser à moi, voulut-il m'oublier ?» Mais c'était une faible consolation que cette pensée, qui revenait ainsi à elle par contre-coup, quand cette pensée lui avait si longtemps appartenu à elle seule. Aussi, en revoyant tout à coup Charny, au moment où elle s'attendait le moins à le revoir, en le retrouvant là, chez le roi, à son retour, à peu près au même endroit où elle l'avait rencontré au jour de son départ, toutes les douleurs qui avaient bourrelé son âme, toutes les pensées qui avaient tourmenté son cœur, toutes les larmes qui avaient brûlé ses yeux pendant la longue absence du comte, venaient à la fois, ensemble, tumultueusement, inonder ses joues et emplir sa poitrine de toutes ces angoisses qu'elle croyait évanouies, de toutes ces douleurs qu'elle croyait passées. Elle pleurait pour pleurer. Ses larmes l'eussent étouffée si elles n'eussent pas jailli au dehors. Elle pleurait sans prononcer une parole. Était-ce de joie, était-ce de douleur? De l'une et de l'autre, peut-être, toute puissante émotion se résume par des larmes. Aussi, sans rien dire, mais cependant avec plus d'amour que de respect, Charny s'approcha de la reine, détacha une des mains dont elle se couvrait le visage, et appuyant ses lèvres sur cette main, « Madame, dit-il, je suis heureux et fier de vous affirmer que depuis le jour où j'ai pris congé de vous, je n'ai pas été 1 heure sans m'occuper de vous. » « Oh, Charny, Charny, répondit la reine, il y eut un temps où vous fussiez peut-être moins occupé de moi, mais où vous y eussiez pensé davantage. »« Madame, dit Charny, j'étais chargé par le roi d'une grave responsabilité. Cette responsabilité m'imposait le silence le plus absolu jusqu'au jour où ma mission serait remplie. Elle l'est aujourd'hui seulement. » Aujourd'hui, je puis vous revoir, je puis vous parler, tandis que jusqu'aujourd'hui, je ne pouvais pas même vous écrire. C'est un bel exemple de loyauté que vous avez donné là, Olivier, dit mélancoliquement la reine, et je ne regrette qu'une chose, c'est que vous n'ayez pu le donner qu'aux dépens d'un autre sentiment. Madame, dit Charny, permettez, puisque j'en ai reçu la permission du roi, de vous instruire de ce que j'ai fait pour votre salut. « Oh, Charny, Charny, reprit la reine, n'avez-vous donc rien de plus pressé à me dire ?» Et elle serra tendrement la main du comte, en le regardant de ce regard pour lequel autrefois elle eût offert sa vie, qu'il était toujours prêt, sinon à offrir, du moins à sacrifier. Et tout en le regardant ainsi, elle le vit non point en voyageur poudreux qui descend d'une chaise de poste, mais en courtisan plein d'élégance, qui a soumis son dévouement à toutes les règles de l'étiquette. Cette toilette si complète, dont la reine la plus exigeante aurait pu se contenter, inquiéta visiblement la femme. « Quand êtes-vous donc arrivé ? » demanda-t-elle. « J'arrive, madame, répondit Charny. « Et vous venez de Montmédy. Ainsi, vous avez traversé la moitié de la France. Je fais 90 lieues depuis hier matin. À cheval, en voiture, en chaise de poste. Et comment, après ce long et fatigant voyage, excusez mes questions, Charny, êtes-vous ainsi bien brossé, verni, peigné qu'un aide de camp du général Lafayette qui sortirait de l'état-major? Les nouvelles que vous apportez étaient donc peu importantes? Très importante au contraire, madame, mais j'ai pensé que si je débarquais dans la cour des Tuileries avec une chaise de poste couverte de boue ou de poussière, j'éveillerais la curiosité. Le roi, tout à l'heure encore, me disait combien vous êtes étroitement gardé, et en l'écoutant, je me félicitais de cette précaution que j'avais prise de venir à pied et avec mon uniforme, comme un simple officier qui revient faire sa cour après une semaine ou deux d'absence. La reine serra convulsivement la main à Charny. On voyait qu'une dernière question lui restait à faire, et qu'elle avait d'autant plus de difficulté à la formuler que cette question lui paraissait plus importante. Aussi prit-elle une autre forme d'interrogation. « Ah oui, dit-elle d'une voix étouffée, j'oubliais que vous aviez un pied-à-terre à Paris. » Charny tressaillit. Seulement alors il voyait le but de toutes ces questions. « Moi, un pied-à-terre à Paris, et où donc cela, madame ?» La reine fit un effort. « Mais rue Coq-et-Hérón, dit-elle, n'est-ce point là que demeure la comtesse ?» Charny fut près de s'emporter, comme un cheval qu'on presse de l'éperon dans une plaie encore vive. Mais il y avait, dans la voix de la reine, une telle hésitation, une telle expression de douleur qu'il eut pitié de ce qu'elle devait souffrir, elle si hautaine, elle si puissante sur elle-même, pour laisser voir son émotion à ce point. « Madame, dit-il, avec un accent de profonde tristesse qui peut-être n'était pas causé tout entière par la souffrance de la reine, je croyais avoir eu l'honneur de vous dire, avant mon départ, que la maison de Madame de Charny n'était pas la mienne. » Je suis descendu chez mon frère, le vicomte Isidore de Charny, et c'est chez lui que j'ai changé de costume. » La reine jeta un cri de joie et se laissa glisser sur ses genoux en portant à ses lèvres la main de Charny. Mais, aussi rapide qu'elle, il la prit sous les deux bras et la relevant, « Madame, s'écria-t-il, que faites-vous ? » « Je vous remercie, Olivier, » dit la reine avec une voix si douce que Charny sentit les larmes lui venir aux yeux. « Vous me remerciez, dit-il, mon Dieu, et de quoi ?»« De quoi ? Vous me demandez de quoi ? » s'écria la reine. « Mais de m'avoir donné le seul instant de joie complète que j'ai eu depuis votre départ ? Mon Dieu, je le sais, c'est une chose folle et insensée, mais bien digne de pitié que la jalousie. » Vous aussi, à une époque, vous avez été jaloux, Charny. Aujourd'hui, vous l'oubliez. Ah, les hommes, quand ils sont jaloux, ils sont bien heureux. Ils peuvent se battre avec leurs rivaux, tuer ou être tués. Mais les femmes, elles, ne peuvent que pleurer, quoiqu'elles s'aperçoivent que leurs larmes sont inutiles, dangereuses. Car nous savons bien que nos larmes, au lieu de rapprocher de nous celui pour lequel nous les versons, l'en écartent souvent davantage. Mais c'est le vertige de l'amour. On voit l'abîme, et au lieu de s'en éloigner, on s'y jette. Ah, merci encore une fois, Olivier. Vous le voyez, me voilà joyeuse, et je ne pleure plus. Et en effet, la reine essaya de rire, mais comme si, à force de douleur, elle eût désappris la joie, son rire eut un accent si triste et si douloureux que le comte en tressaillit. « Oh, mon Dieu, murmura-t-il, se peut-il donc que vous ayez tant souffert ?» Marie-Antoinette joignit les mains. « Soyez béni, Seigneur, dit-elle, car le jour où il comprendra ma douleur, il n'aura pas la force de ne plus m'aimer. » Charny se sentait entraîné sur une pente où, à un moment donné, il lui serait impossible de se retenir. Il fit un effort, comme ces patineurs qui, pour s'arrêter, se cambrent en arrière au risque de briser la glace sur laquelle ils glissent. « Madame, dit-il, ne me permettez-vous donc pas de recueillir le fruit de cette longue absence en vous expliquant ce que j'ai été assez heureux de faire pour vous ?»« Ah, Charny, répondit la reine, j'aimais bien mieux ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous avez raison. » Il ne faut pas laisser trop longtemps oublier à la femme qu'elle est reine. Parlez, monsieur l'ambassadeur. La femme a obtenu tout ce qu'elle avait droit d'attendre. La reine vous écoute. Alors Charny lui raconta tout, comment il avait été envoyé à monsieur de Bouillé, comment le comte Louis était venu à Paris, comment lui, Charny, avait, buisson à buisson, relevé la route par laquelle la reine devait fuir, comment, enfin, il était venu annoncer au roi qu'il n'y avait plus en quelque sorte que la partie matérielle du projet à mettre à exécution. La reine écouta Charny avec une grande attention et en même temps une profonde reconnaissance. Il lui semblait impossible que le simple dévouement allât jusque-là. L'amour, et un amour ardent et inquiet, pouvait seul prévoir ces obstacles et inventer les moyens qui devaient les combattre et les surmonter. Elle le laissa donc dire d'un bout à l'autre, puis quand il eut fini, le regardant avec une suprême expression de tendresse, « Vous serez donc bien heureux de m'avoir sauvé, Charny ?» demanda-t-elle. « Oh !» s'écria le comte, « vous me demandez cela, madame, mais c'est le rêve de mon ambition, et si j'y parviens, ce sera la gloire de ma vie. » « J'aimerais mieux que ce fût, tout simplement, la récompense de votre amour, » dit la reine avec mélancolie. « Mais n'importe, vous désirez ardemment, n'est-ce pas, que cette grande œuvre du salut du roi, de la reine et du dauphin de France s'accomplisse par vous ?» Je n'attends que votre assentiment pour y dévouer mon existence. Oui, je le comprends, mon ami, dit la reine, ce dévouement doit être pur de tout sentiment étranger, de toute affection matérielle. Il est impossible que mon mari, mes enfants, soient sauvés par une main qui n'oserait s'étendre vers eux pour les soutenir s'ils glissaient dans cette route que nous allons parcourir ensemble. Je vous remets leur vie et la mienne, mon frère. Mais à votre tour, vous aurez pitié de moi, n'est-ce pas ? Pitié de vous, madame ? Oui, vous ne voudrez pas qu'en ces moments où j'aurai besoin de toute ma force, de tout mon courage, de toute ma présence d'esprit, une idée folle peut-être, mais que voulez-vous ? Il y a des gens qui n'osent se hasarder dans la nuit, de peur des spectres que, le jour venu, ils reconnaissent ne pas exister. Vous ne voudrez pas que tout soit perdu, peut-être, faute d'une promesse, faute d'une parole donnée. Vous ne le voudrez pas. » Charny interrompit la reine. « Madame, dit-il, je veux le salut de votre majesté, je veux le bonheur de la France, je veux la gloire d'achever l'œuvre que j'ai commencée, et je vous l'avoue, je suis désespéré de n'avoir qu'un si faible sacrifice à vous faire. Je vous jure de ne voir Madame de Charny qu'avec la permission de votre majesté. » Et saluant respectueusement et froidement la reine, il se retira sans que celle-ci, glacée par l'accent avec lequel il avait prononcé ces paroles, essaya de le retenir. Mais à peine Charny eut-il refermé la porte derrière lui que, se tordant les bras, elle s'écria douloureusement « Ah, que j'aimerais mieux que ce fût moi qui lui fait le serment de ne pas voir et qu'il m'aimât comme il l'aime !»